On en parlait dans le journal avec Blaise van der Linden. Il y a eu lieu à l'ouverture de la convention démocrate à Chicago. Eh bien, on a décidé de revenir sur cet événement en compagnie, de notre ami Isaac Franco, géopolitologue que vous écoutez, si vous êtes des assidus, et je ne doute pas que vous le soyez, tous les lundis entre 17 et 18 heures. Ça a repris hier d'ailleurs, le Chercher l'erreur, c'est l'émission qu'il co-anime avec Richard. Voici l'avis d'Isaac Franco, géopolitologue, donc, sur l'ouverture de la Convention démocrate à Chicago et ses enjeux.
Isaac Franco, vous êtes resté avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on voulait parler ensemble de cette convention du Parti démocrate qui commence aujourd'hui à Chicago pour investir Kamala Harris comme candidate à l'élection présidentielle face à Donald Trump. On y attend Barack Obama, Joe Biden ou Hillary Clinton encore qui vont s'adresser et prononcer des discours de soutien à la vice-présidente et candidate. Quels sont les enjeux de cette convention, Isaac Franco?
C'est de donner une légitimité à la candidate démocrate qui en manque, puisqu'elle a été désignée par Joe Biden le 21 juillet, lorsque les caciques du parti ont décidé que Joe Biden allait à une défaite de dimension biblique et qu'il fallait qu'il fasse un pas de côté. Donc on l'a forcé à faire ce pas de côté, et Joe Biden a désigné un peu comme un mourant qui se trouve sur son lit à la dernière heure de son existence, il a désigné Kamala Harris comme devant lui succéder et devant endosser le manteau du représentant du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Alors, aussitôt, tous les délégués qui avaient porté leur suffrage sur Joe Biden, en 24 heures, ont porté ces mêmes suffrages sur Kamala Harris. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir, depuis la déposition de Joe Biden le 21 juillet, une convention nationale démocrate ouverte, comme on dit, c'est-à-dire avec les candidats démocrates qui veulent se présenter, ils se présentent devant les délégués et ils tentent leur chance. Là, avant même d'arriver à cette convention nationale démocrate, le candidat démocrate a été désigné, il a été adoubé par les électeurs, c'est donc elle qui représentera le parti. Donc c'est né d'un véritable coup d'État, un véritable putsch politique interne au Parti démocrate. Il faut maintenant, dans ces 4 jours de la Convention nationale démocrate, donner un profil présidentiable à une candidate du Parti démocrate qui, jusqu'à sa désignation par Joe Biden, n'était pas perçue par les responsables démocrates comme quelqu'un qui avait une quelconque envergure et une quelconque chance d'emporter une joute aussi importante que l'élection présidentielle. Et donc il faut désormais transposer ou transformer un boulet tel qu'elle a été pendant 3 ans et demi en chance pour le Parti démocrate et essayer d'unifier ce parti qui est fortement écartelé, déchiré entre une aile modérée traditionnelle et une aile radicale, d'aller unir à la bataille. Et ensuite, il s'agit de gommer toutes les aspérités de la personnalité de Kamala Harris et également toutes ces déclarations qu'elle a faites par le passé et qui la faisaient se ranger dans le courant radical d'extrême gauche du parti démocrate. Et donc, il faut rassurer à la fois les modérés et rassurer les extrémistes, le courant le plus radical du Parti démocrate. Comment a-t-elle choisi de rassurer cette aile radicale? C'est par la nomination de son colistier, Tim Walz, au détriment de quelqu'un qui avait plus d'envergure, Josh Shapiro, qui est le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, qui est un État charnière absolument indispensable aux deux candidats, qu'il s'agisse de Donald Trump comme de Kamala Harris, pour gagner l'élection présidentielle, puisqu'il y a 20 délégués pour le collège électoral qui votent au nom de l'État de Pennsylvanie. Et donc elle a renoncé à nommer Josh Shapiro, qui l'aurait probablement aidé à gagner cet État de Pennsylvanie, au profit de Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota, qui de toutes les façons était un État acquis aux démocrates, mais qui ne lui apportera strictement rien, sinon rassurer les radicaux du Parti démocrate qu'elle ne prenait pas un juif qui avait eu également, qui avait eu des déclarations de soutien à l'État d'Israël depuis la guerre du 7 octobre.
Vous l'avez dit, elle n'a pas de rival lors de cette convention. Kamala Harris, elle est la candidate. Est-ce que c'est son premier gros défi qui commence aujourd'hui?
Ah oui, certainement. Même si elle ne s'adressera pas aux délégués présents aujourd'hui, elle le fera seulement le 22, lorsqu'elle acceptera officiellement la nomination du Parti démocrate. Aujourd'hui, c'est Joe Biden qui va s'adresser aux délégués. Et puis, vous le disiez en préambule, il y aura également les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama qui s'adresseront, mais pas seulement, hein, il y aura vraisemblablement d'autres personnalités qui prendront la parole, comme Nancy Pelosi ou Chuck Schumer, ou bien les anciens conseillers David Axelrod et James Carville, qui diront tout le bien qu'il faut impérativement penser de Kamala Harris et faire en sorte que les électeurs potentiels de Kamala Harris oublient qu'en réalité, elle a participé au bilan de Joe Biden, qui est un bilan pour le moins déficitaire. Et donc, il faut faire comme si, en fait, Kamala Harris est une personnalité totalement nouvelle, totalement originale, qui n'a pas participé aux 3 ans et demi de mandat jusqu'ici de Joe Biden. Et de faire oublier qu'en réalité, elle, lorsqu'elle s'est présentée à l'élection présidentielle en 2020, dans les débats entre démocrates, elle s'était illustrée par des positions extrêmement radicales, extrêmement à gauche. Et donc il faut effacer cette image qu'a Kamala Harris de quelqu'un qui ressort du courant radical et la faire passer pour une modérée. Ça sera tout le but, et donc c'est de lisser son profil, de la rendre vendable sur un plan politique, et c'est la raison pour laquelle on a interdit pratiquement à Kamala Harris de s'adresser à la presse, d'accorder une conférence de presse depuis maintenant 30 jours. Mm-hmm. Je dis 30 jours, c'est véritablement 30 jours. Et probablement, ce silence médiatique continuera jusqu'au 10 septembre, qui est la date du débat présidentiel entre elle et Donald Trump. Et jusqu'à cette date, elle ne pourra s'adresser aux Américains que dans des rallyes, des rassemblements où elle dispose d'un téléprompteur. Mais le 10 septembre, c'est probablement là où on verra quelle est la véritable envergure de Kamala Harris face à quelqu'un qui rêve d'en découdre.
Un sujet qui nous préoccupe particulièrement, c'est sa position sur Israël et sur la guerre qui est en cours. Elle va devoir la clarifier. Que ce soit pour le monde et également pour ses électeurs.
Alors, il faut avoir la volonté de fermer les yeux devant ce qui devrait éclairer absolument tout le monde. Elle a, dans l'administration Biden, était certainement la personnalité qui a été la plus critique à l'égard de l'État d'Israël. La plus critique et la plus menaçante, même à l'égard du Premier ministre israélien, au point de refuser d'être présente lorsque le Premier ministre israélien s'est rendu à Washington pour s'adresser aux deux chambres réunies le 24 juillet dernier. Elle a organisé son indisponibilité, son absence, ce qui était un acte politique manifeste. Décider de ne pas être là et être là aurait été un acte politique, mais refuser de l'être, c'était un acte politique évident. En plus de ça, en plus de ses déclarations passées qui attestent véritablement de, je vais pas dire de son hostilité, mais en tout cas de son ressentiment à l'égard du Premier ministre israélien, il y a les nominations qu'elle a faites ces derniers jours, comme agent de liaison à l'égard de la communauté juive, qui est une personnalité très controversée, qui faisait partie de l'équipe d'Obama, qui s'appelle Ilan Goldenberg, qui a été de déclaration à l'égard, très critique à l'égard de l'État d'Israël. Même chose pour la personnalité qu'elle a nommée pour agir en qualité d'agent de liaison entre l'administration américaine et la communauté musulmane. C'est également une personnalité qui avait réservé beaucoup de louanges à l'égard de la geste du Hamas le 7 octobre. Donc ces nominations-là, en plus de celles vraisemblables, si elle était élue, de Phil Gordon, qui est aussi un ancien de Obama, à la place de Anthony Blinken comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, montre dans quelle direction irait cette administration à l'égard de l'État juif.
Pour terminer, il nous reste malheureusement plus que 2 minutes, donc on va essayer de faire assez concis. Vous parliez de ses positions radicales, notamment en 2020, Donald Trump Enchaîne les déclarations qui vont dans ce sens-là. Il l'a qualifié de communiste récemment. C'est le cas. Et est-ce qu'elle peut être élue aux États-Unis avec des positions si radicales?
Elle n'a aucune chance. Si elle apparaît fidèle à ses convictions et à ses déclarations passées, elle n'a évidemment aucune chance de séduire les démocrates modérés. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 est important, parce qu'il s'agit de produire une nouvelle Kamala Harris, quelqu'un qui est à l'opposé de ses déclarations, de construire, de fabriquer un profil beaucoup plus lissé, beaucoup plus présentable, beaucoup plus modéré, pour justement avoir une chance de briguer l'investiture. Donc, on verra. Nul doute que pour l'instant, elle bénéficie d'une espèce de honeymoon, de lune de miel médiatique. Et les sondages, d'ailleurs, témoignent de ce resserrement entre Donald Trump et Kamala Harris. Il faut voir combien de temps ça durera. Et probablement la date qui en décidera de la durée de cette honeymoon, de cette lune de miel, ce sera le 10 septembre, lorsque les deux candidats s'affronteront en Pennsylvanie lors du débat entre les deux candidats.